qui tient les clés de l'État, va vendre tout. Petit à petit, tous les bijoux de famille vont être vendus aux multinationales, les investissements arrivent, les élites politiques en profitent évidemment largement au passage. Et ça, ça ne se passe pas évidemment seulement en Hongrie, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Russie par exemple. Et au fur et à mesure, eh bien, la vie de la majorité des Hongrois commence peu à peu à se dégrader, malgré l'espoir, malgré l'illusion, disons, l'espoir et l'illusion créée par le changement en 1989. C'est la grande euphorie ultralibérale, consommation, paillettes, crédit. Et en 1998, le très anticommuniste Viktor Orban prend la tête du gouvernement. Et c'est là, ce que disait l'auditeur tout à l'heure dans son message, c'est là qu'il rallume la flamme du nationalisme hongrois, c'est là qu'il réveille les blessures de l'histoire, c'est là qu'il réveille 1920, Trianon, l'amputation de la grande Hongrie, et pour Orban, il y a les vrais Hongrois, c'est-à-dire ceux qui votent pour lui, et puis les autres, ceux qui ont collaboré avec les communistes et ceux qui bradent le pays aux Occidentaux. Il perd de peu les élections de 2002 et il laisse la place à ses pires ennemis qui sont les socialistes. En 2004, il faut le rappeler, la Hongrie intègre l'Union européenne. Et il faut évoquer là un personnage très important qui sera le Premier ministre Ferenc Gyurcsány, qui est un ex des jeunesses communistes, qui est devenu un homme d'affaires très riche et très ultra-libéral. Et il y aura cette séquence assez extraordinaire en septembre 2006, lors d'une conférence privée avec les membres de son gouvernement. Ferenc Gyurcsány dira « Oui, bah, écoutez, on a menti au peuple, on a menti le matin, le midi, le soir. » Et il y aura des extraits de cet enregistrement qui seront diffusés partout par ses adversaires politiques. Ça créera un mouvement très violent de manifestations dans les rues pour demander sa démission. Et ça tombera pile 50 ans après le soulèvement d'octobre 1956, 50 ans après. 50 ans, octobre 1956, c'est un soulèvement contre le communisme stalinien. Et là, 50 ans après, c'est un soulèvement contre l'économie financiarisée, le capitalisme financier, à 50 ans de différence. Alors, on pourrait se dire que cette prise de conscience, c'est des limites du néolibéralisme, de la domination des politiques imposées par le FMI, par l'Union européenne, tout ça, ça va profiter, on se dit voilà, à une gauche altermondialiste éclairée. Eh bien, pas du tout, tout ça, ça profite à Viktor Orban. Orban se positionne contre la domination financière, contre le pouvoir des multinationales, contre les diktats du FMI et de l'Union européenne, et il est ainsi, grâce à cela, confortablement élu au printemps 2010, en même temps qu'on assiste à une montée du parti d'extrême droite, le Jobbik, avec 16,7%. On a parlé de ce parti, évidemment, inquiétant. Alors aujourd'hui, Viktor Orban, on dit Orban Viktor en Hongrie, c'est l'homme fort. Il refait la Constitution, il impose son régime, il prend un tas de mesures liberticides, réactionnaires, ultra-conservatrices. C'est ce que dénoncent les médias, y compris nos médias français. C'est ce que dénonce l'Union européenne. Mais le vrai motif de cette indignation et de défense des grands principes et des grandes valeurs, c'est que Orban, on le sait moins, on le dit moins, a décidé de taxer les banques internationales et les produits financiers. Il a décidé de taxer les multinationales, dont les grandes entreprises françaises qui se sont gavées depuis des années et des années. Or,